Bonsoir, comment allez-vous? En ce moment fleurissent des informations sur l'alimentation. J'ai appris qu'on ne devait pas manger de chèvre frais en hiver. Qu'il y avait également des saisons pour les poissons. En ce moment, par exemple, c'est la saison de l'aigle fin. Mais si, vous connaissez, c'est le haddock, comme le capitaine. Les saumons d'élevage, c'est terminé. Ils baignent dans leurs excréments, sont bourrés d'antibiotiques et vivent entassés comme des détenus. La viande, c'est compliqué. Je n'ai pas plus envie d'avoir un vegan sur le dos qu'un poulet martyr dans le ventre. Restent les fruits et légumes, tellement appétissants cette saison. Sauf que le Parisien aujourd'hui en France a publié le 6 juin le tableau des fruits et légumes qui contiennent le plus de pesticides. Salade de fruits pas jolie. Heureusement, il reste le bio. Le vrai bio, pas le faux qui est pas beau. Le vrai qui est pas laid, mais qui est pas toujours bio non plus, à cause de la pollution qui monte de la terre sournoisement ou qui descend du ciel en douce aussi. Bon, bio ou pas bio, il ne faut manger ni trop sucré, ni trop salé, ni trop gras. Ne pas manger entre les repas, ni le soir, alors le matin, mais pas de pain à cause du gluten, il n'y a plus qu'à boire, pas de pinard à cause des sulfites, ni d'eau qui est en plastique, ni de lait qui est pour les veaux, ni de pipi, c'est dégoûtant, pas de bonbons, il gâte les dents. Alors qu'est-ce qu'on fait? Moi j'ai plus la pêche, hein, ni la patate, ni la frite.
Bonjour, je m'appelle Ninon et j'ai 7 ans. Je voudrais savoir pourquoi les pommes de terre sont-elles des féculents? Merci.
Ben voilà Ninon, moi je dis bravo. Pourquoi les pommes de terre sont-elles des féculents? Nous avons proposé ta question, Ninon, à un grand scientifique, Hervé Tis.
Alors les féculents, c'est très intéressant parce que...
Mais qu'est-ce que c'est, Hervé Tis,
justement, c'est ça, on ne sait pas, et personne ne sait en vrai. Enfin, si, il y a du monde qui sait, mais c'est compliqué.
Ah, pas moi,
alors moi, je me souviens de mes enfants, et un jour, ils m'ont vu faire des expériences à la maison, ma thèse, je l'ai préparée à la maison, avec mon labo à la maison, etc. Puis un jour, ils me disent, mais papa, si je mange des pâtes, du riz et des pommes de terre, est-ce que je mange équilibré? Alors je leur dis, ben non, tu ne manges pas équilibré. Mais ils me disent, mais c'est pas pareil. Et je dis, vous avez raison, c'est pas pareil. En vrai, il y a une expérience à faire, c'est on prend de la teinture d'iode, donc il faut faire ça proprement, hein, parce que ça fait des taches terribles, et avec un petit compte-goutte, on met une goutte de teinture d'iode diluée sur tous les aliments de la cuisine. La teinture d'iode, c'est marron.
Orange,
hein, c'est marron. Ouais. Et il y a ceux qui deviennent bleus, tout d'un coup ça devient bleu, et puis ceux qui restent marron. Donc ça fait deux catégories différentes. Or, il se trouve que ceux qui deviennent bleus, ben, c'est la farine, c'est les pâtes, c'est le riz, c'est tous les féculents. Et les féculents, c'est donc des aliments qui contiennent en particulier de l'amidon, donc des petits grains durs, qui sont ceux de la farine, pour simplifier. Et donc, si on mange des pâtes, du riz, des pommes de terre, comme les pommes de terre contiennent des petits grains durs d'amidon qu'on voit bien au microscope, un microscope de jouet, eh ben, on a des féculents. Et alors, les pommes de terre, c'est très intéressant même. On prend donc un petit couteau, on fait une lame très très mince de pommes de terre, on la met sur une plaque en verre, on regarde sous le microscope, et on voit des sacs, les cellules de pommes de terre, et dedans, des petits grains durs qui s'appellent les grains d'amidon. Et quand on les colore, on voit très très bien ça au microscope. C'est très facile à faire.
Quand on les touche, les pommes de terre, avec les doigts, c'est un peu gluant au début, c'est un peu sec après.
Ah oui, alors, les pommes de terre... Quand on coupe une... Non, c'est tout à fait pareil. Quand on coupe une pomme de terre, on voit une espèce de jus blanc qui va sortir. Et quand on laisse sécher ce jus blanc, c'est l'eau qui s'est évaporée et il vous reste les petits grains d'amidon, une poudre blanche. D'accord. Et ça s'appelle la fécule de pomme de terre. Fécule, féculent.
Et amidon, c'est avec ça qu'on rigidifie le linge.
Oui, c'est ça qu'on empesait les cols à l'amidon, c'est-à-dire à la farine, quoi, en gros. Hein. Mais il y a des farines plus ou moins pures, donc si on a un vêtement bien blanc, il vaut mieux une fécule bien blanche.
J'adore son rire. Hervé Tis est physico-chimiste à l'INRA, membre de l'Académie d'agriculture. Vous pouvez réécouter cette expérience à faire chez vous sur franceinter.fr. Vous découvrirez également sur le site des Petits Bateaux le titre des ouvrages d'Hervé Tis.
Bonjour, je m'appelle Léna, j'ai 6 ans. Je voudrais savoir si on peut construire une vraie maison avec un jeu de construction, comme les petites planchettes de bois, par exemple. Merci, au revoir.
Bonsoir Léna. Alors, petites planchettes de bois, il y en a beaucoup. Nous avons choisi Capla. Frédéric Martin, bonjour.
Bonjour, Marie.
Vous êtes le responsable du Capla de Lyon. C'est rigolo cette question de Léna, elle vous inspire?
Oui, tout à fait. Parce que souvent les enfants viennent nous voir pour construire une cabane, un château, dans lesquels ils veulent rentrer, toujours. Donc une vraie maison, non, on peut pas bien sûr se dormir dedans, l'électricité, le chauffage, tout ça, il n'y a pas. Mais on peut faire un petit peu comme...
Genre une petite cabane.
Une cabane, une maison. Nous, on sait qu'avec les caplas, on peut faire une portance de 2,50 m. C'est-à-dire qu'entre deux murs, au-dessus de notre tête, je peux faire une voûte de 2,50 m.
Et ça tiendra ?
Et ça tient. Mais pour faire ça, il me faut 1,50 m de chaque côté pour faire des contrepoids, comme ça. Donc c'est un truc énorme.
De la place.
Il faut de la place. Tout ça pour avoir une petite chambre de 2,50 m de large. Et voilà. Il faudrait donc des millions et des millions de caplas, genre deux ou trois semi-remorques bien remplis. Sachant que c'est une construction éphémère. Donc pour bouger dedans, c'est limité.
Il n'y a pas de vis, il n'y a pas de colle.
Et voilà. Donc vivre dedans tous les jours, c'est risqué.
En fait, ce que vous proposez comme construction pour l'ENA, ce serait un peu comme un igloo.
Un peu comme, tout à fait. Mais sauf que c'est à cause des longueurs de planchettes qu'on est obligé de faire une voûte. Si on avait des planches plus longues, eh ben la voûte ne se verrait pas et ça ferait presque un plat.
Mais le principe du cas plat, c'est que toutes les briquettes sont exactement aux mêmes dimensions, toutes.
Toutes, même dimension au dixième de millimètre. Et c'est avec ça qu'on va jouer et travailler et inventer des choses.
J'adore ce jeu. Qu'est-ce qu'il a inventé ?
Un Hollandais, il y a presque 30 ans maintenant. Voilà, il s'est fait avec du pain des Landes. À côté de Bordeaux.
Une de perdue, une de perdue. Retenir les choses comme elles sont. Il y aura quand même de la peine. Tant qu'on se rappelle de la veille. Et j'étais pas dégoûté. Mais tu m'auras donné raison. À vouloir faire de la merde. T'avais le pouvoir de l'admettre.
Et toujours pareil pour les excuses. Désolé mais toutes mes excuses. C'est mieux que toi, la tête pourtant posée sur son plexus. Y'a des fuites comme dans une écluse.
Tu sais très bien.
Et y'a des bifs même dans les églises. J'étais pas vraiment un mec lisse. Plusieurs fois j'ai considéré ça comme un versus. Alors qu'il fallait un mec pisse. Cette histoire me rend malade. Malade, j'ai mal à la tête. Mais j'aimerais casser la mienne. Pour un peu mieux me sentir. Dormant malade, malade j'ai mal à la tête. Mais j'aimerais casser la mienne. Pour un peu mieux me sentir. Quand on a cessé d'aimer, on doit se laisser tranquille. On doit se laisser tranquille. On doit se laisser tranquille. Quand on a cessé d'aimer, on doit se laisser tranquille. On doit se laisser tranquille.
Quoi, t'écoutes mes textes? J'en suis certain car les jalouses sont toutes les mêmes. Sous mes airs, j'en souffre encore. Courant d'air dans parcours en or. Avec qui tu sors, avec qui tu sais. Pourquoi ça m'intéresse? Mon talent m'a rendu célèbre, le pouvoir ça rend fêlé. L'amour ça rend bête, ça prendra toute l'énergie sans même faire de parenthèse. Pourquoi tu réponds pas? Je sais que t'entends les appels. J'arrive pas à croire que t'es réussi à tout zapper. Tu fuis de façon minable. On dirait les personnages qui font de la course à pied. Ou peut-être que c'est moi qui suis parano. J'ai trop fumé de pétard et je vais me finir à la gueule. Commencer la soirée comme faisaient les Ramones. Et la finir éclatée par terre comme un petit rameau. Cette histoire me rend malade. Malade j'ai mal à la tête. Mais j'aimerais casser la mienne. Pour un peu mieux me sentir. Cette histoire me rend malade. Malade j'ai mal à la tête. Mais j'aimerais casser la mienne. Un peu mieux me sentir. Quand on a cessé de m'aimer, on doit se laisser tranquille. On doit se laisser tranquille. On doit se laisser tranquille. Quand on a cessé de m'aimer, on doit se laisser tranquille. On doit se laisser tranquille.
Malade par Roméo Elvis. Si au cours d'un jeu, on vous demande de qui le rappeur Roméo Elvis est-il le frère, répondez Angèle.
Les petits bateaux sur France Inter.
Les couples se comporteraient certainement mieux si nous faisions un stage dans le sexe opposé. C'est-à-dire que nous, filles, nous ferions un stage en tant que garçons pendant, disons, un mois ou deux, et les garçons feraient un stage en tant que filles pendant un mois ou deux, le jour de l'accouchement, par exemple. Allez, monsieur Braham, on pousse, allez, on pousse, une petite fille. Vous auriez préféré un garçon? Eh ben, elle fera un stage en garçon.
Je m'appelle Pauline, j'ai 13 ans, et je voulais savoir comment les huîtres font-elles pour avoir des bébés. Merci, au revoir.
Bonjour, madame Noël. Je m'appelle Bénédicte, et j'ai 4 ans, et comment les huîtres font leur bébé.
Nous avons proposé vos questions à Jean Proulx. Jean Proulx, Vous êtes chercheur à l'IFREMER, vous êtes directeur du centre de recherche de la Tremblade, c'est en Charente-Maritime. C'est vraiment votre grande spécialité, les huîtres. Alors, Pauline et Bénédicte s'interrogent.
Merci Pauline et Bénédicte pour cette très belle question. Déjà, employer le mot bébé huître, c'est un très joli nom pour dire comment ça se passe chez les coquillages. C'est un petit peu comme chez tous les autres animaux. Il y a des huîtres qui sont mâles et puis il y a des huîtres qui sont femelles. La seule différence avec nombre d'animaux, c'est que les huîtres peuvent, dans leur vie, être d'abord mâles et puis après femelles. Jamais les deux en même temps, mais l'une après l'autre. Donc elles sont plutôt femelles quand elles sont vieilles et plutôt mâles quand elles sont jeunes. Alors chaque animal fait entre le mois de mars et le mois de juillet et août, fait ce qu'on appelle des produits génitaux, c'est-à-dire qu'il fabrique ses spermatozoïdes et puis pour les mâles et puis les ovocytes pour les femelles. Et puis quand les animaux sont mûrs, à peu près tous en même temps, toutes les huîtres dans une région vont être mûres à peu près en même temps, on dit matures, au mois de juillet, au mois d'août, en fonction d'un orage, d'un petit coup de froid, d'un peu de pluie. Toutes les huîtres vont pondre à peu près en même temps. Elles vont envoyer leurs spermatozoïdes et leurs ovocytes dans l'eau de mer. Des fois, d'ailleurs, il y en a tellement que l'eau devient blanche. Les ostréiculteurs voient un jour l'eau toute blanche. Eh bien, c'est parce qu'il y a dans l'eau des spermatozoïdes et des ovocytes en quantité très importante. Et puis là, au petit bonheur la chance, un spermatozoïde va rencontrer une ovocyte et puis ça va faire un œuf. Et puis cet œuf, on va l'appeler chez les huîtres, on va l'appeler une larve. Alors une larve, c'est un tout petit animal qui fait un dixième de millimètre, qui s'entoure très très rapidement d'une toute petite coquille.
Oh.
Dès les premières heures, une toute petite coquille qui est très transparente. Alors, c'est la larve qui, l'œuf, en fin de compte, a une espèce de peau, hein, comme nous on aurait une peau qui fait des ongles et des cheveux. Et bien là, elle fait une petite coquille autour d'elle, elle prend dans l'eau de mer le carbonate de calcium, et puis elle se fait une petite coquille. Et alors, elle ouvre cette petite coquille et elle a ce qu'on appelle un petit voile. Quelque chose qui est fait bouger, comme ça, il lui permet de capter déjà la première nourriture et puis de se déplacer. Alors évidemment, elle n'a pas beaucoup de facilité de se déplacer parce qu'elle est toute petite et puis les courants sont très importants. Donc en fin de compte, elle va au gré des courants avec toutes les autres. Et ça dure une vingtaine de jours. Alors la coquille va grossir, la taille va augmenter jusqu'à à peu près, au bout de 20 jours, alors elle fait un cinquième de millimètre, c'est tout petit. Mais c'est assez lourd, c'est-à-dire que le coquillage il va tomber tranquillement jusqu'au fond. Et puis là, s'il trouve un rocher, s'il trouve une autre coquille d'huître vide, s'il trouve une carapace de crabe, il va s'accrocher. La larve va s'accrocher au bout de 20 jours. Et déjà, là, ça va être une huître, hein, on appelle ça un essaim. Donc si l'ostréiculteur, lui, c'est-à-dire l'ostréiculteur, c'est la personne qui élève les huîtres, il met des collecteurs, c'est-à-dire des tubes en plastique, des ardoises, il va collecter ces petites larves d'huîtres là, et il va faire après des grandes huîtres. Voilà pour la reproduction des huîtres, c'est comme ça que ça se passe.
Donc en fait, Jean-Prou, au tout début, quand les huîtres lâchent leurs ovocytes ou leurs spermatozoïdes, c'est ça ? Ça se balade dans la mer, il faut donc qu'il y ait un peu de mouvement pour que tout ça se rencontre.
Voilà, il faut qu'il y ait du mouvement, mais la mer c'est toujours que du mouvement. Hein. On peut penser que ce ne sont pas des lacs, hein. C'est la marée basse, c'est la marée haute, ça c'est la lune et le soleil qui font ça. Et donc il y a toujours du mouvement, il y a aussi les fleuves. Les fleuves apportent du courant, mais ils apportent aussi ce qu'on appelle des éléments nutritifs. C'est-à-dire que quand la pluie tombe sur un territoire, elle va emporter avec elle dans les fleuves ce qu'on appelle de la matière organique, c'est-à-dire de la nourriture. Et cette nourriture va se transformer en plancton quand elle va arriver en mer. Ça va générer du plancton. Et les huîtres raffolent du plancton. En fin de compte, les huîtres, ce sont des herbivores. À au moins 50% de leur nourriture, ils mangent des petites algues microscopiques qui sont ce plancton-là.
Merci Jean-Prou. Vous connaissez le principe des petits bateaux. Des enfants posent des questions et nous trouvons des spécialistes pour leur répondre.
Bonjour, je m'appelle Lucas, j'ai 6 ans et je voudrais savoir pourquoi il y a des noms de famille qui veulent dire quelque chose et d'autres qui veulent rien dire. Merci, au revoir.
Bonsoir Lucas, Marie-Odile Merniac. Pourquoi il y a des noms de famille qui veulent dire quelque chose et d'autres qui ne veulent rien dire, demande Lucas.
En fait, Lucas, tous les noms de famille veulent dire quelque chose. Tous, mais on ne s'en rend pas forcément compte. D'abord parce qu'ils correspondent à des surnoms vieux de 800 ans. Aussi parce qu'ils ont été créés dans des patois ou dans des langues qu'on ne comprend plus maintenant. Alors, évidemment, ceux qui s'appellent Courtois, Le Gros, Petit, Boulanger...
On comprend.
C'est clair, on comprend. Mais pour tous les autres, tu peux trouver leur signification dans des dictionnaires étymologiques qu'on trouve à peu près dans toutes les bibliothèques.
Bah dans vos livres, Marie-Odile Merniak, chez Archives et Culture, il y en a un par région en fait.
Voilà, d'abord par région, comme vous le disiez, et puis aussi par département, et un gros qui s'appelle les noms de famille en France. Mais alors, quelques exemples, Le Bihan et Mermoz, par exemple, veulent tous les deux dire « petit ». Mermoz veut dire « petit » en savoyard, et Le Bihan veut dire « petit » en breton. Voilà, on comprend « petit ». Bien sûr, toujours, mais on ne comprend plus Mermoz, on ne comprend plus Le Bihan. Sauf peut-être si on est breton ou savoyard. Mais on a Le Canuet, par exemple, qui désignait un homme âgé ou aux cheveux blancs, ça vient du latin canu. Et Fort, nommé le forgeron, là aussi, à cause du latin, en ancien français.
Ah, Fort, c'est forgeron, c'est pas quelqu'un de gros.
Non, Fort, F-A-U-R-E.
Ah oui, il y en a beaucoup des Forts.
Oui, énormément.
Parce qu'il y avait beaucoup de forgerons.
Oui, un par village. Donc Fort, Fabre, Lefèvre, tous ces noms-là veulent dire le forgeron. Mais évidemment, on ne le comprend plus tout de suite en les voyant aujourd'hui.
Bourreau, coupeur de tête ?
Ah, bourreau, non, c'était le bourrelier. Donc on se dit, mon Dieu, mon ancêtre était chargé de donner la peine de mort aux criminels. En fait, pas du tout, c'était le surnom dans la région centre, dans la vallée de la Loire, que l'on donnait au bourrelier, c'est-à-dire à celui qui faisait les harnais pour les chevaux, les brides, les selles, un métier qui travaille le cuir.
Le dernier livre de Marie-Odile Merniak, Les noms de famille en 100 clins d'œil, édité chez Archives et Culture, vient de sortir. Il est très amusant. On apprend que Adam est un nom de famille porté par 28 000 personnes en France et Ève aussi est un nom de famille. Eh bien, Adam et Ève se sont mariés en 1812. Laurel et Hardy se sont également mariés. Jean Laurel a épousé Jeanne Hardy le 31 janvier 1820 à Notre-Dame-des-Victoires à Paris. Been on my own that way, just sat by myself all day. C'était Smile, Lily Allen. Regardez les photos de Lily Allen. Elle a les cheveux tantôt blonds, tantôt bruns et tantôt roses. Et son vrai nom, c'est Lily Rose, Béatrice Cooper.
Bonjour, je m'appelle Augustin, j'ai 8 ans. Je voudrais savoir si les femmes préhistoriques dessinaient elles aussi sur les murs des grottes.
Merci Augustin. Les murs des grottes, Carole Fritz, c'est votre domaine. Vous êtes archéologue, spécialiste de l'art préhistorique, chercheur au CNRS, et puis vous avez dirigé ce beau livre, L'art de la préhistoire, chez Citadel et Masneau. Comment le savoir ?
Augustin, merci pour ta question. C'est quelque chose que moi qui me travaille beaucoup, c'est pas parce que je suis une femme, mais parce que la société préhistorique, il n'y a pas que des hommes.
Oui, on dit toujours les hommes préhistoriques.
Voilà. Alors ça, c'est une question, je vais être très honnête avec toi Augustin, à laquelle officiellement je ne peux pas répondre. Puisque je suis archéologue et que je ne sais pas qui tenait le fusain ou le silex dans la grotte. Et je n'ai aucun moyen de le savoir. Sauf que quand on est archéologue, on va essayer de déduire des choses et essayer d'aller regarder ce qui se passe dans d'autres sociétés, même si on ne peut pas totalement comparer, puisque rien n'est réellement comparable d'une société à l'autre. Mais il y a des pratiques qui nous orientent vers des réponses.
Et puis j'ai envie de rajouter cette parenthèse, les scientifiques marchent au raisonnement, à la déduction, mais aussi à l'intuition.
C'est un peu ça, oui, voilà. Alors, il y a un fait qu'il faut savoir, c'est que la préhistoire a longtemps été le domaine de compétence des hommes.
Des hommes, garçons.
C'est-à-dire que c'est une science qui est récente pour nous, mais peut-être ancienne pour d'autres, qui a débuté à la fin du 19e, début du 20e. Et là, c'était des hommes mâles qui faisaient de l'archéologie. C'était des curés, c'était des gens qui avaient de l'argent, qui pouvaient avoir un loisir d'archéologue, si je puis dire, puisque il n'y avait pas de profession archéologue à l'époque. D'accord. Et là, on se rend compte que ça a laissé des traces. C'est-à-dire que quand on discute encore avec certains, les dessins, c'est forcément une histoire d'hommes. Parce que c'est des images d'animaux féroces qui sont sur les parois. Et donc, il n'y a que les hommes qui peuvent dessiner ça.
C'est une histoire de puissance.
Voilà. Et là, moi, je ne suis pas du tout d'accord. C'est évident. Pourquoi ? Parce que les hommes préhistoriques, les sociétés préhistoriques du Paléolithique, s'ils ont quelqu'un qui sait très bien dessiner et que c'est une femme, je ne vois pas pourquoi ils se priveraient de son talent. Voilà. Et il faut savoir aussi que dans certaines grottes, on a des empreintes de pieds nues, chaussées ou nues. Et il s'avère que c'est souvent des tailles aux alentours du 36-37. Alors généralement, c'est interprété par certains archéologues comme des pieds d'adolescents. Et alors moi, une fois, il y a eu une empreinte justement de ces traces de pieds dans une grotte. Et puis je mets l'empreinte par terre, j'enlève ma chaussure, j'enlève ma chaussette et je mets le pied dedans. Et je dis, je suis une éternelle adolescente.
Voilà.
C'est-à-dire que la vision de la femme dans les sociétés préhistoriques, elle n'existait pas. Parce que c'était un domaine régi, si je veux dire, par les hommes mâles, des scientifiques mâles. Or, la femme, elle existe. Elle n'est pas là uniquement pour mettre les enfants au monde et on va faire de la caricature pour aller faire la cuisine. Et on sait que dans d'autres sociétés, par exemple, les plus grandes chamanes, ce sont des femmes et pas des hommes. Donc, je n'ai pas de traces archéologiques pour dire oui, ce sont des femmes qui font les dessins, mais je n'ai pas de traces archéologiques pour dire oui, ce sont des hommes qui font les dessins. Donc pour moi, la question est ouverte.
L'archéologue Carole Fritz dirige l'équipe scientifique de la grotte de Chauvet-Pont d'Arc, que je vous invite, si vous le pouvez, à visiter cet été. Sinon, vous pouvez lire « L'art de la préhistoire », édité chez Citadel et Masneau. Mes enfants, vous pouvez parfois, comme Tina, vous étonner ou même vous impatienter de ne pas entendre de réponse à vos questions. Sachez que ce n'est pas parce que votre question ne nous a pas plu, c'est parce que nous en avons trop, nous n'avons plus de place, ou bien que cette question a déjà été posée. Vous pouvez réécouter ces petits bateaux sur franceinter.fr. Nous reviendrons dimanche prochain à partir de 19h30. Nous, c'est Florent Layani, Noël Bréa, Marjorie Devoucou, Eliane Girard, Jean-Baptiste Audibert dans le désordre. Mais voici dans l'ordre, pour la Tulu, mon petit loup, Denis Chessou.